glace bleue.
Attends encore un peu, je refaisais le monde.
Lève-toi donc, respire, quel printemps nous avons.
J'efface 1000 avions, une guerre, un empire.
Faut labourer la terre et tirer l'eau du puits.
Changer la vie et puis abolir la misère.
Regarde l'alouette, il est midi sonné.
Le monde abandonné, je le donne aux poètes.
Allons, viens dans les vignes, le soleil est très haut.
Le monde sera beau, je l'affirme, je signe. Le monde sera beau, je l'affirme, je signe.
Des vendanges, je suis pris d'un désir étrange, né du souvenir des païens, né du souvenir des païens. Couchons ce soir tous les deux sur le pressoir, défaisons cette folie. Couchons ce soir tous les deux sur le pressoir. Margot, Margot, ma jolie. Parmi les grappes qui s'étalent comme une jonchée de pétales, oh ma bacchante, roulons-nous. J'aurai l'étreinte rude et franche et les tresseaux de ta chair blanche écraseront les raisins doux, écraseront les raisins doux. Couchons ce soir tous les deux sur le pressoir, défaisons cette folie. Couchons ce soir tous les deux sur le pressoir. Margot, Margot, ma jolie. Sous les baisers et les morsures, nos bouches et les grappes mûres mêleront leur sang généreux et le vin nouveau de l'automne ruissellera jusqu'en la tonne. D'autant plus qu'on s'aimera mieux, d'autant plus qu'on s'aimera mieux. Couchons ce soir tous les deux sur le pressoir, défaisons cette folie. Couchons ce soir tous les deux sur le pressoir. Margot, Margot, ma jolie. Hop.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe aux vermicelles. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur parle, un tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Content devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant les luttes immédiatement, chef du gouvernement.
Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Civis Pacem, l'émission de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire. Nous allons parler aujourd'hui dans notre émission de l'échec de l'armée française dans sa lutte contre le djihadisme au Mali et au Burkina Faso. Mais nous allons parler aussi des bavures militaires dans cette guerre perdue d'avance. Quand le 18 août 2020, des généraux maliens font un coup d'État et donnent 72 heures à l'ambassadeur de France pour quitter le Mali, on comprend que l'échec de l'action politique et de l'armée française au Mali sont complets. Tout cela est raconté dans le détail par Rémi Carayol, journaliste au Monde diplomatique, dans son livre intitulé « Le mirage du Sahel, la France en guerre en Afrique, Serval, Barkhane et après ?». Ce livre a été publié aux éditions de la Découverte en janvier 2023. Rémi Carayol nous a accordé un entretien pour Civis Pacem le jeudi 8 juin 2023. Mais en 2018, nous avions déjà entendu Rémi Carayol dans notre émission. Il venait de publier un article dans Le Monde diplomatique qui avait pour titre « Au Mali, la guerre n'a rien réglé ». Et nous l'avions interrogé sur les actions de l'armée française au Mali depuis l'intervention militaire lancée par François Hollande dans la nuit du 10 au 11 janvier 2013. Alors pourquoi, en 2018, Rémi Carayol pensait déjà que l'armée française était dans une impasse ?
5 ans après Serval et 4 ans après la transformation de Serval en opération Barkhane, donc qui était étendue à d'autres pays. Bon, c'était assez clair à cette époque que c'était une impasse, cette guerre. Il suffisait de se rendre sur le terrain, ce qui était mon cas, au Mali, mais aussi dans les autres pays de la région, pour voir que... En fait, les opérations de l'armée française n'aboutissaient à aucun résultat concret, puisque certes, ils annonçaient des morts de combattants djihadistes régulièrement, les militaires français, ils annonçaient des morts de chefs djihadistes aussi, mais dans le même temps, les groupes djihadistes ne cessaient de gagner du terrain. Non seulement ils gagnaient du terrain, mais en plus, ils gagnaient des partisans. pour différentes raisons, hein, évidemment. Et donc, dès 2018, dès 2017 même, dès 2016, on pourrait dire, il y a quelques chercheurs qui sont des chercheurs de terrain, mais aussi plusieurs personnes avec qui je discute sur le terrain, qui disent, mais cette guerre n'aboutira pas. Le seul moyen d'aboutir à cette guerre, c'est de se mettre autour d'une table et de discuter. Mais ça, le problème, c'est que les dirigeants français n'ont pas voulu l'entendre.
Alors aujourd'hui, vous publiez donc le livre Le Mirage sahélien, donc c'est plus seulement le Mali, c'est tout le Sahel maintenant, et puis vous disiez justement que c'était un échec programmé au départ, mais maintenant, ce livre pourquoi? Parce que vous dites aussi que la majorité des Français ne savent rien de ce qui se passe au Sahel.
Bah justement, pour ça, en fait... Si j'ai voulu écrire ce livre, moi j'ai fait 10 ans de terrain au Sahel, et c'est vrai que c'était pas forcément, j'avais pas forcément l'ambition d'écrire un livre, j'avais l'ambition de retranscrire ce que je pouvais voir sur le terrain à travers les différents médias pour lesquels je travaille. Mais par contre, quelque chose me dérangeait beaucoup en France, c'était l'absence de débat sur cette guerre, et c'était la méconnaissance de la plupart des Français que je côtoie au quotidien, hein, les simples citoyens, on va dire, qui ne savaient pas, ils savaient qu'il y avait des soldats français qui étaient en guerre au Mali, mais finalement, quand je discutais avec eux, ils savaient pas pourquoi, ils savaient pas qui avait en face, qui était l'ennemi, entre guillemets, et ils savaient pas surtout quelles étaient les méthodes employées par l'armée française dans cette guerre. Donc ça me semblait important d'écrire ce qui se passait vraiment sur le terrain, mais aussi de soulever une question, à savoir pourquoi, en France, le président de la République peut déclencher une guerre sans qu'il n'y ait aucun débat à propos de cette guerre, non seulement lors du déclenchement, mais ensuite les années suivantes. Mmh. Et ça, c'est quelque chose, pour moi, c'est un problème démocratique majeur en France, qui est que tout cela, c'est du domaine des pouvoirs régaliens du président, et ça n'est jamais débattu ni par les représentants du peuple, que sont les parlementaires, ni par les citoyens. Et ça, j'essaye, avec ce livre, d'alerter, en fait, les citoyens sur le fait qu'on devrait, en tant que citoyen, avoir notre mot à dire à la fois sur les guerres que la France mène, sur s'il faut mener des guerres, sur pourquoi on mène des guerres, mais aussi sur le contrôle citoyen des méthodes qui sont employées dans ces guerres.
Alors on va en reparler des méthodes justement, parce que lorsque vous êtes suivi l'opération Serval, vous dites à un moment donné, quand vous êtes arrivé, vous étiez journaliste sur place, vous n'étiez pas historien, vous dites bien je suis journaliste et pas historien, vous avez pensé que c'était une guerre juste.
Disons que c'était très difficile à l'époque de penser qu'elle n'était pas justifiée. Plus que juste, je dirais justifiée dans le sens où, au Mali même, les gens soutenaient, en tout cas la plupart des gens soutenaient l'intervention française. Moi j'étais en janvier-février 2013 lorsque l'opération est lancée. Effectivement, il y a des images qui sont improbables, où on voit des centaines de Maliens agiter des drapeaux français, des enfants et des adultes saluer les militaires qui montent vers le nord du pays. Et en fait, il y avait une espèce d'ambiance, moi j'appelle ça une parenthèse enchantée, entre guillemets, c'est-à-dire que pendant un temps, on a oublié toute l'histoire douloureuse entre la France et le Mali, une ancienne colonie, on va dire, le Mali est un pays où il y a quand même une souveraineté assez importante, un patriotisme aussi assez important, et c'est un pays justement qui ne faisait pas partie des fleurons, entre guillemets, de ce qu'on appelle la France-Afrique. C'est un pays qui a, depuis les indépendances, toujours pris soin de se démarquer un peu de la politique de la France. Et là, on était, au contraire, de plein pied dans la France-Afrique, quelque part, dans des relations très étroites entre Paris et ses anciennes colonies. Et effectivement, moi, comme beaucoup de journalistes, comme beaucoup de chercheurs, d'observateurs, finalement, on a manqué de perspicacité, à mon sens, sur les conséquences que pourrait avoir une telle intervention militaire de la France dans une ancienne possession coloniale. Et pourtant, dès le début, moi, il y a des images, et je le raconte dans le livre notamment, il y a une image qui est particulièrement choquante lorsque François Hollande arrive à Bamako en février 2013. Donc je suis à Bamako à ce moment-là. Il vient faire un discours sur la place de l'indépendance à Bamako. Les drapeaux français partout, les hurrahs. Et là, je tombe sur une pancarte complètement hallucinante où je lis « Merci Papa Hollande, Tonton Le Drian et Tonton Fabius ». Alors là, même si je ne suis pas historien, j'ai quand même quelques références et je sais que ça nous renvoie directement à l'époque coloniale, évidemment. Et là, ça me heurte. D'ailleurs, je l'écris dans un article sur le moment. Mais pour autant, effectivement, j'ai le sentiment que cette guerre devait avoir lieu quelque part, que cette intervention militaire était justifiée. Voilà. Et encore aujourd'hui, il était difficile, je pense, pour le président français de refuser l'appel, parce qu'effectivement, il y a eu un appel du président malien de l'époque. Ça semblait difficile. Il ne faut pas oublier qu'en face, on a des groupes djihadistes qui dominaient le nord du Mali, qui imposaient leur joug, qui avaient quand même mis en place des règles très strictes, qui avaient coupé des mains à Gao, qui avaient lapidé un couple dans la région de Tombouctou. Donc, tout ça fait que c'était très difficile d'être critique vis-à-vis de cette guerre. C'est avec le temps, et c'était inévitable, que et moi et d'autres observateurs, notamment des chercheurs, on a commencé à émettre des doutes sur les bienfaits en fait de cette opération militaire.
Dans le livre de Rémi Carayol, Le Mirage sahélien, on peut lire sur le chapitre qui a pour titre l'intox des colonnes djihadistes fondant sur Bamako la chose suivante. Dès le 10 janvier 2013, tout le monde a bien compris ce qui se prépare, des colonnes rebelles s'apprêtent à fondre sur Bamako. En réalité, rien ne le prouve. Sur le moment, quelques élus, des militants et de rares journalistes mettent en doute la version officielle. Était-on sûr que la colonne de djihadistes qui descendait vers le sud se dirigeait vraiment sur Bamako? Je n'y crois absolument pas, s'était notamment interrogé le député Christophe Guillotot. Dans son livre paru en 2014, « La guerre de la France au Mali », Jean-Christophe Notin écrit noir sur blanc que cette histoire ne correspond pas à la réalité des faits. S'appuyant sur ses sources au sein du service de renseignement de l'armée, il affirme « Serval sera exceptionnel sur bien des points ». Et sa naissance est l'un des plus singuliers. Ce n'est pas sur la foi de preuves concrètes, mais sur un faisceau de présomptions que la France s'apprête à déclencher son opération la plus importante depuis la guerre d'Algérie. Car, poursuit-il, pas plus que les avions de reconnaissance, aucun satellite français comme américain n'a jamais pris de mouvement massif en flagrant délit, et jamais un conseiller n'a déposé sur la table du président de la République les clichés fatidiques. Si les colonnes de pick-up n'ont jamais été localisées, pourquoi le contraire est-il souvent lancé ? Interroge Notin. Il ne faut pas croire à une volonté de travestir la vérité, mais sans doute de mieux la faire passer auprès du grand public. Une colonne, entre guillemets, de voitures suscitera toujours plus de crainte qu'un nuage, entre guillemets, ou des agrégats épars. Or, la vérité est que, au moment de prendre leur décision, à part les rapports affolés de l'armée malienne, les autorités françaises n'ont disposé d'aucun élément tangible. Les djihadistes qui se concentrent dans le centre du Mali ne se déplacent pas en colonne. Bien au contraire, s'ils le faisaient, ils seraient aussitôt repérés par les avions français, rappelle le journaliste Dominique Mercher. 8 ans après le début de la guerre, en février 2021, dans un article le qualifiant de légende, l'histoire des colonnes. Plus que de « colonnes », entre guillemets, l'image renvoie aux opérations militaires classiques en Europe et frappe les esprits. Il s'agissait, en réalité, d'un essaim ou d'un nuage de véhicules. On peut donc conclure que la France a menti pour déclencher cette guerre qui va devenir rapidement une guerre coloniale.
Kelemai, 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 kel
Merci d'être à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire. Alors après cette chanson de l'artiste malien Dios Saramani, nous reprenons notre entretien avec le journaliste Rémi Carayol, auteur du livre « Le mirage du Sahel, la France en guerre en Afrique, Serval, Barkhane et après ?» Ce livre a été publié à La Découverte en janvier 2023.
Alors justement, là vous rendez compte que c'est finalement une guerre coloniale quoi qui est en train de se mettre en place, d'autant plus quand ça continue après Serval, c'est ça le problème, c'est que là ça devient carrément une guerre coloniale, et les militaires qui combattent là-bas ont toujours cet esprit de la colonie.
Les officiers en tout cas, les soldats de rang viennent d'une culture souvent différente et n'ont pas l'histoire coloniale en tête. Par contre, chez les officiers, c'est très présent, c'est omniprésent même. Lorsqu'ils arrivent au Sahel, la plupart ont été bercés des exploits, entre guillemets, de l'armée française, de l'armée de terre, durant la colonisation. Il faut savoir que le Sahel, le Sahara, c'est un théâtre d'opération qui a donné ses heures de gloire à l'armée de terre, aux troupes de marine notamment, et que tout ça s'est vraiment inscrit dans les gènes de cette armée, et que ça se transmet de génération en génération, souvent parce que les officiers sont issus de familles d'officiers, mais aussi dans les écoles militaires. Voilà. Et en fait, lorsqu'ils arrivent au Mali, et puis ensuite dans les autres pays, en fait, ils arrivent avec leur souvenir de lecture d'enfance, de ses exploits militaires, avec leur vision aussi, et avec un certain nombre d'idées préconçues sur comment fonctionne la société dans laquelle ils viennent se battre. Sauf que c'est des idées qui datent d'un siècle. Et déjà, à l'époque, elles étaient fausses, dans le sens où Les militaires ont beau avoir fréquenté les populations de ces zones très longtemps, ils ne les ont jamais comprises. Mais en plus, un siècle plus tard, elles sont encore plus fausses. Et en fait, ça les a poussés à entreprendre un certain nombre de stratégies, d'alliances aussi, basées sur ces réflexes coloniaux, ce logiciel colonial, comme je l'appelle, et qui était, à mon sens, et au sens d'un certain nombre de chercheurs, de très mauvaises idées, en fait. Par exemple, ils ont décidé de s'allier avec des groupes Touareg en pensant qu'ils pouvaient leur faire confiance parce que des liens assez étroits s'étaient construits durant la colonisation, une fois que la conquête était passée. Hein, parce qu'il faut savoir que durant la conquête coloniale, les Touareg ont représenté une forme de résistance aux coloniaux français, mais qu'une fois que la conquête a été terminée, à ce moment-là, il y a eu une espèce d'alliance qui s'est créée et des liens étroits, effectivement. Et avec cette conception dans l'armée française, ce que j'appelle le mythe de l'homme bleu, qui est très présente, c'est-à-dire on a l'impression que le Touareg, c'est un combattant fier, un aristocrate, et ça, ça plaît aux officiers, forcément, puisqu'ils sont souvent eux-mêmes issus de familles aristocrates ou anciennement aristocrates. Et donc, on est arrivé avec l'idée qu'on pouvait compter sur eux pour mener cette guerre, en fait. Sauf que c'était beaucoup plus compliqué que ça, que d'abord les Touareg, c'est comme tout le monde, il y a des gens qui ont choisi des voies différentes, des voies politiques. Les groupes armés avec lesquels la France se battait avaient eux-mêmes leur propre agenda, qui n'était pas celui de la France. Et ça fait que, les militaires sont tombés de haut lorsqu'ils ont compris que finalement, les choses n'étaient pas comme il y a 100 ans.
Mais c'est une stratégie coloniale de jouer une ethnie contre une autre ethnie. Ça a toujours été comme ça dans les colonies. Et là, donc, c'est une stratégie aussi ancienne, c'est-à-dire qui est, comme vous dites, qui n'a rien compris de l'actualité. Et pourquoi ? Alors, il y a eu quand même au Mali Aminata Traoré. Il faudrait en dire un mot parce que elle a été la seule, dès le début, me semble-t-il, d'émettre des réserves.
Quelques-uns des intellectuels. Il faut dire que le Mali a produit de nombreux intellectuels, quelques-uns émettaient des doutes, mais pas au tout début, parce qu'au début, ils étaient inaudibles, en fait. Au début, c'était très difficile de critiquer cette intervention. Donc, ils émettaient des doutes, il y a elle, il y a notamment Omar Mariko aussi, qui est une figure de la gauche malienne, qui émettait des doutes, mais en petit comité, en fait. Publiquement, ils avaient tendance à ne pas trop parler, et je suis notamment tombé sur des archives de France 24, à l'époque, 2-3 mois après le déclenchement de l'opération, où ils disaient que c'était vraiment pas facile à l'époque pour parler. Pourtant, ce sont des personnes qui ont une certaine stature et qui ont une audience importante au Mali. Et effectivement, c'est seulement au bout de quelques mois qu'ils ont commencé à dire ce qu'ils pensaient de cette opération. Et de fait, assez rapidement, au bout d'un an, en fait, hein, on sent clairement que l'opinion publique au Mali commence à se questionner sur cette intervention. Ça vient assez tard, hein, plusieurs mois, mais il n'empêche que, avant même que l'opération Serval ne soit transformée en opération Barkhane, il commence à y avoir des personnes de plus en plus nombreuses qui commencent à se dire, ça y est, les Français, ils ont fait le job, ils ont repoussé les djihadistes, maintenant, il faudrait qu'ils partent. Sauf qu'ils ne sont pas partis.
Oui, alors justement, ces questions de la population, est-ce que les généraux les entendent ? Parce qu'il y a aussi, ils auraient pu parler avec des diplomates, mais là, ils parlent qu'avec des généraux. Et les généraux, est-ce qu'ils comprennent ce qui se passe dans la population ? Parce que les djihadistes continuent à progresser.
Alors, les généraux, non, parce que les généraux ne sont pas au contact de la population. Ceux qui sont au contact, c'est plutôt les colonels, les lieutenants, et encore, les colonels, pas vraiment. Mais alors, quand même, chez les militaires, je trouve que, globalement, même s'ils sont bercés de leurs illusions venues tout droit de la colonie, même si ils sont redoutés sur leur stratégie, assez rapidement, quand même, ils sont conscients que cette guerre n'est pas gagnable, que c'est beaucoup plus compliqué que ça, que l'ennemi ne peut pas être uniquement qualifié de terroriste, qu'il y a une forme d'insurrection, en fait, dans ces groupes armés qui surgissent, et que la réponse militaire n'est pas la seule, finalement, ne pourra pas être la seule réponse à cette crise. Donc, paradoxalement, les militaires de terrain, en fait, sont assez conscients de ça. Le problème, c'est que les militaires de bureau, et surtout les responsables politiques, eux, n'en sont pas conscients. Ils ne veulent pas l'entendre, parce que les chercheurs le disent.
Oui,
les journalistes, quelques journalistes le disent, mais ils ne veulent pas l'entendre. Pour eux, ce sont des terroristes. Point. Et les terroristes, il n'y a qu'une chose à faire, c'est les neutraliser, pour reprendre un terme de l'armée française qui signifie les tuer, les éradiquer. L'éradiquer, c'est un terme qui avait été choisi par François Hollande lui-même lorsqu'il s'était exprimé devant les soldats de l'armée française à Tombouctou en février 2013. Donc les terroristes, on ne discute pas avec eux. Et pendant des années, les responsables politiques n'ont voulu voir dans l'ennemi, entre guillemets, encore une fois, que des terroristes. Sauf que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et ça, pour le coup, les militaires l'ont assez vite compris quand même.
Alors justement, il y a eu des méthodes qui ont été utilisées, on va en parler un petit peu maintenant, qui est justement d'éliminer certains chefs, d'utiliser un peu ce que utilise l'armée américaine, c'est-à-dire de faire carrément des exécutions programmées. Et là, on en arrive à un nombre de morts, parce qu'on voyait que l'armée était efficace si elle avait un nombre de morts suffisant.
Oui, au début, les bilans hebdomadaires de l'armée française dans le cadre de cette opération sont aussi des bilans comptables. On annonce le nombre de morts. Au bout d'un certain temps, on se rend compte que c'est quand même assez contre-productif et on décide de ne plus donner de chiffres. Il n'empêche que, en fait, il y a deux aspects dans cette histoire. Il y a le nombre de morts, qui est quelque part la manière pour l'armée française de dire « Regardez, on a des résultats quand même, puisqu'on tue des gens. » Ça, c'est quelque chose. Mais dans ces morts, la plupart sont des combattants de rang. Voilà. Il y a aussi quelques civils, peut-être qu'on y reviendra un peu plus tard. Mais le gros souci dans cette stratégie, c'est effectivement le choix de procéder à des exécutions extrajudiciaires. C'est-à-dire que là, c'est pas seulement on va bombarder une zone où on sait qu'il y a des combattants djihadistes qui opèrent, on va cibler les chefs. Et on va les cibler non pas pour les arrêter, mais pour les tuer. Et ça, c'est un vrai problème. Très clairement, c'est une stratégie qui a été recyclée de la stratégie des Américains, notamment menée au Moyen-Orient. Et parce que l'armée française était persuadée qu'en tuant les chefs, on amoindrissait ces groupes armés. Or, rien ne le prouve, puisqu'on voit bien qu'au fil des ans, ils ont tué quand même beaucoup de chefs. La plupart des chefs des groupes djihadistes, des chefs connus, ont été tués. Malgré tout, non seulement les groupes djihadistes ont continué de gagner du terrain et d'avancer, mais en plus, et c'est ce que relève un certain nombre de chercheurs de terrain, souvent quand un chef est tué, il est remplacé par un chef qui est encore plus violent que le précédent. Et c'est là, encore aujourd'hui, on entend les militaires ou les responsables politiques dire « Mais si, Barkhane a été un succès, regardez, on a tué tant de chefs. » Ils continuent à penser que ce sont ce qu'ils appellent des succès tactiques. Pour moi, ce sont des échecs tactiques. Parce que ces chefs-là, le fait de les tuer n'a abouti à aucune évolution positive sur le terrain. Et parfois même à des évolutions négatives. Je prendrai l'exemple de Mokhtar Belmokhtar, qui était un des grands chefs historiques d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui a ensuite fondé une scission en fait au sein d'Atmi, donc qui a été Al-Murabitoun. Lorsque Mokhtar Belmokhtar, qui était un chef assez violent, il faut le dire, qui avait notamment enlevé un certain nombre d'otages occidentaux, qui avait tué un certain nombre de civils. Lorsqu'il a été tué par une frappe aérienne de l'armée française, il était en Libye à ce moment-là, il a été remplacé par Abu Walid al-Sarawi. Il se trouve que Abu Walid al-Sarawi est celui qui a décidé de se rallier à l'État islamique, qui est un groupe, que ce soit en Syrie, mais aussi au Sahel, un groupe beaucoup plus violent qu'Al-Qaïda, qui n'a aucune considération pour les civils, contrairement à Al-Qaïda, qui essaye de faire avec les civils, et qui a mené, donc ce groupe, d'innombrables exactions contre des civils, en fait. Donc, et malgré tout, on continue à parler de l'assassinat de Mokhtar Belmokhtar comme d'une victoire. Pour moi, ça pose un vrai problème de remise en cause de cette stratégie qui n'a toujours pas été mise en œuvre aujourd'hui en France.
Alors bon, on a tué les chefs, l'armée française c'était son boulot, mais il y a eu aussi beaucoup de dérives dans cette guerre. Et justement, l'armée ne le reconnaît pas toujours. Il y a un exemple que vous donnez qui est important, c'est ce fameux enfant de 8 ans qui a été tué et même enterré sans rien dire. Alors comment ça s'est passé ?
Alors on est en novembre 2016, c'est dans l'extrême nord du Mali, dans une région où vivent essentiellement des nomades, des Touaregs qui sont nomades ou semi-nomades, c'est-à-dire qu'ils migrent d'un campement à un autre au gré des saisons. Cet enfant de 8 ans est missionné par ses parents d'aller récupérer les ânes pour mener des travaux agricoles. Il se trouve qu'au même moment, c'est une zone qui est en partie contrôlée par les groupes djihadistes et l'armée française mène de nombreuses opérations dans cette zone. Et au même moment, l'opération a lieu et des soldats français qui sont à bord d'un hélicoptère tirent sur l'enfant de 8 ans, donc il se trouve à quelques centaines de mètres du campement, qui est parti chercher les ânes. Il le tue. Et il rentre à la base. Puis, dans l'après-midi, ça se passe le matin. Dans l'après-midi, ils reviennent et ils enterrent l'enfant. Et ils rentrent à la base. C'est deux jours après que les nomades du coin, qui ont évidemment entendu les tirs, qui n'ont pas vu mais qui ont entendu les tirs, et qui ont appris qu'un enfant était porté disparu, sont allés sur les lieux. Ils n'y sont pas allés avant parce qu'ils avaient peur tout simplement d'être pris eux-mêmes pour des djihadistes. Donc ils y vont et là, ils retrouvent le corps de l'enfant qui a été enterré à la va-vite. J'appelle sa bavure. L'ONU a lui-même qualifié cet événement de possible crime de guerre. C'est la première faute majeure en matière de bavure. C'est un terme qui peut être problématique, mais bon, voilà, c'est le plus simple qui vient à l'esprit. Voilà. Que j'ai documenté. Voilà. Il y en a eu d'autres après, mais c'est la première que j'ai documentée. Et c'est moi celle que je trouve la plus choquante. Parce que l'armée française n'a jamais reconnu cette faute. À mon sens, il y a une double faute. D'abord, ils ont tiré sur un mineur. C'est quand même un enfant, 8 ans. C'est quand même pas un enfant de 17 ans qu'on peut prendre pour un adulte éventuellement. C'est un enfant de 8 ans. Ils ont expliqué, pour toute explication, ils ont dit que c'était un guetteur et donc un complice des djihadistes, donc un ennemi. Voilà. C'était un enfant de 8 ans. Première faute grave. La deuxième faute grave, qui est pour moi même plus choquante, c'est qu'ils sont revenus l'enterrer alors qu'ils savaient qu'il y avait un campement pas très loin et que en voyant que c'était un enfant, la moindre des choses aurait été d'aller prévenir le campement et d'aller prévenir la famille plutôt que de l'enterrer en catimini en espérant probablement que personne ne retrouve le corps et que l'enfant soit porté disparu. Ça pour moi c'est une faute grave. Là je parle personnellement, hein, mais l'ONU qui a enquêté sur toutes les exactions commises par tous les groupes armés au Mali, et donc y compris par la MINUSMA, donc, qui est la mission des Nations Unies, et y compris par l'opération Serval puis Barkhane de l'armée française, a qualifié quand même cet acte de possible crime de guerre et a dit que ça avait suscité un grand mécontentement dans la population locale, non pas encore une fois parce qu'il y avait eu mort d'enfants, mais parce que l'armée française n'était pas venue présenter le corps et s'excuser de cette erreur. Voilà. C'est un événement, à mon sens, assez important, parce que c'est à partir de cette période-là aussi, alors c'est pas cet événement qui aboutit à ça, mais c'est à partir de cette période-là qu'on sent quand même, dans la population locale, que les gens commencent à être critiques quand même vis-à-vis de l'armée française et vis-à-vis de certaines de ses méthodes.
Na fologo kele mi medugo golo sanfe bi marifa de ake. Wani fade funangenu sara keri na che marifa de ufa. Wani fade funangenu sara keri na che marifa de ufa. Dunya be kele mi na bit nyen fambe fe marifa no yae. Ibe bala ujugu mi e chet nyen fambe fe marifa de boke. Ibe lago si jugu mi e chet nyen fambe fe marifa de boke. One fade o mali de nu o mare fade mani ae angola ji. One fade o mali de nu o mare fade mani ae kinshasa ji. One fade o mali de nu o mare fade mani ae libibe ji. One fade o mali de nu o mare fade mani ae siribe ji.
pardon qu'elle est maïe. Connais comment qu'elle est maïe. Tout la malou marifa maïe. A tieni djougou mimbin, j'ai dit un femme fait marifa de yake. A la rouchi djougou mimbin, j'ai dit un femme fait marifa de yake. Connais qui ma qu'elle est maïe. Il canna son qu'elle est de ma. Si a quoi qu'elle est maïe. Mali de nous qu'elle est maïe. N'y en a mes chauves et femme de nia. Aussi la foi de bon fait. Bali maïa de bon fait. Moi si la mouya de béa. Moi j'en ai mes de béa. Mali de fima ni beke l'ini. On est pas de Mali de nous, on m'a fade mani aye angolachi. On est pas de Mali de nous, on m'a fade mani aye genjajati. On est pas de Mali de nous, on m'a fade mani aye libibeti. On est pas de Mali de nous, on m'a fade mani aye siribeti. Masalu. Dunya masaluyo, dunu ya famaluyo, dunya mara masaluyo. Enve la paix, enve la paix, dunya maukoko, enve la paix. Dunya mara masaluyo, jayara kokele vejama na nyami. Ayaunji gire, nasyon zimi, ayaunji gire. I am jiggy, say they are. I am jiggy, Genesee. I am jiggy, Mali don't be petty fair. Mali don't be petty fair. On me la peine, full on la peine. On est pas de Mali de Moussara, non, il a tué Marifa de Yake. On est pas de Mali de Moussara, non, il a tué Marifa no Yake. On est pas de Mali ma Moussara, non, il a tué Marifa de Yufa. On est pas de Kelecha Moussara, non, il a tué Marifa de Yufa. Taï Mai, Kele Mai. Taï Malo, Marifa Mai. Le pari malou na follow my. Demission me kasi la biche siri kono marifa de yake. Pari mo we kasi la biche libi kono marifa de yake. Mali de umbe kasi la biki dale kono marifa de kufa.
Cette chanson de Dios Saramani. Dios Saramani qui nous accompagne dans cette émission, une chanson intitulée La Paix. Nous reprenons notre entretien avec le journaliste Rémi Carayol, auteur du livre Le Mirage du Sahel, La France en guerre en Afrique, Serval, Barkhane et après, point d'interrogation. Livre édité aux éditions de La Découverte en janvier 2023. Rémi Carayol nous a parlé d'une bavure de l'armée française particulièrement grave dans sa guerre contre le djihadisme. Mais malheureusement, il y a eu d'autres bavures.
Alors il va y avoir d'autres bavures, bien sûr. Il y a eu aussi cette fameuse, disons, bombardement, si je ne sais pas si c'était le bombardement, d'un mariage, où il y a eu, alors là, de nombreuses victimes.
Ouais, 22 morts. Là, on est en janvier 2021. Ça se passe dans un village au village de Bounti qui se trouve dans le centre du Mali. Et il se trouve que ce jour-là, c'est un dimanche, il y a un mariage au village. On est dans une zone qui est très clairement contrôlée par les groupes djihadistes. Chaque village compte des jeunes qui ont rejoint ces groupes djihadistes. Chaque village a des sympathisants de ces groupes djihadistes. L'État est complètement absent de cette zone. Et effectivement, c'est une zone qui est contrôlée à quasiment 100% par les groupes djihadistes. Pour autant, tout le monde n'est pas combattant de ces groupes djihadistes et tout le monde n'est pas sympathisant non plus. Et dans ce jour-là, il y a un mariage et l'armée française, voyant un rassemblement, est persuadée qu'il s'agit d'un rassemblement de djihadistes. Pourquoi ? Parce que, comment ça se passe un mariage au Mali, comme dans tout un tas d'autres pays, les femmes font la cuisine pendant que les hommes se réunissent un peu à l'extérieur du village, en l'occurrence à l'ombre de quelques arbres, pour discuter. Et l'armée française, voyant que ce sont des hommes, et uniquement des hommes qui sont rassemblés, qu'il y a des armes, il faut savoir que c'est une zone où tout le monde est armé. Il y a une insécurité endogène depuis toujours, ce sont des gens qui ont du bétail, ce sont des peuls dans ce village qui ont du bétail, donc face au vol de bétail il faut pouvoir se défendre, donc tout le monde est armé. Et la France est persuadée qu'il s'agit de djihadistes et donc elle mène des frappes à travers des avions de chasse, des drones ont surveillé mais ce sont des avions de chasse qui frappent, et elle frappe la zone et il y a 22 morts. Sur ces 22 morts, l'ONU, qui a mené une enquête, a établi qu'il y avait 19 civils et qu'il y en avait 3 qui étaient probablement des combattants du groupe djihadiste qui contrôle la zone. Parce qu'effectivement, selon des témoins, moi, avec qui j'ai pu discuter, il y avait des enfants du village, effectivement, qui avaient rejoint ces groupes djihadistes, mais aussi, il faut savoir que ces groupes donc, qui contrôlaient cette zone envoyaient régulièrement des hommes dans les villages, lorsqu'il y avait des festivités, pour dire ben voilà quelles sont les règles. Parce qu'effectivement, ils ont changé les règles. Les hommes ne doivent pas se mélanger aux femmes, il ne doit pas y avoir de musique, des choses comme ça. Donc régulièrement, ils vont dans les villages pour expliquer vous ne devez pas faire ça, vous devez faire ça. Donc ça peut expliquer la présence de ces hommes, comme ça peut être tout simplement des cousins qui sont des combattants, mais qui sont venus participer à la fête. Ce bombardement n'a jamais été reconnu comme une faute par l'armée française, qui continue encore aujourd'hui de dire que c'était des djihadistes, alors que de nombreuses ONG maliennes ou internationales, comme Amnesty International ou HR Human Rights Watch, l'ONU, dans un rapport circonstancié qui a entendu des dizaines et des dizaines de témoins, et des travaux journalistiques, sont tous arrivés à la conclusion qu'il s'agissait de civils, qu'il s'agissait d'une cérémonie de mariage. Et ça, la France l'a toujours nié. Et cette bavure qui est la plus importante en nombre de victimes de tout l'engagement de l'armée française durant cette période, elle est importante sur un autre aspect que moi j'ai soulevé à l'époque dans Mediapart et que j'évoque également dans le livre, c'est que ça ressemble beaucoup à ce qu'on appelle une frappe signature. Qu'est-ce que c'est une frappe signature ? C'est les Américains qui ont inventé ce concept qui est lié au fait qu'on peut surveiller le ciel maintenant depuis le ciel avec les drones pendant des heures et des heures. Et donc, plutôt que de frapper un endroit où on a la certitude qu'il y a des combattants, soit qu'ils sont en train de se battre, soit on a l'identité de ces personnes et on sait qu'elles sont, par exemple, des responsables de groupes armés, à cette stratégie qui est quelque part vieille comme le monde, on a adopté une nouvelle stratégie qui est d'étudier le comportement des gens qui sont au sol. Et en fonction d'un certain nombre de critères, on peut estimer, on peut deviner qu'il s'agit probablement de combattants d'ennemis. C'est ce qu'on appelle les frappes signatures, parce que en fait, au sol, les hommes qui sont au sol portent la signature de groupes djihadistes. Mais le doute subsiste, parce qu'on ne connaît pas l'identité de ces gens, et par ailleurs, ils ne mènent pas des opérations de combat. Sauf que, souvent, ce sont des hommes armés qui se déplacent en moto ou en pick-up, et donc, ils ont un comportement suspect. Et la bavure de Bounty ressemble beaucoup à ce qu'on appelle donc une frappe signature, c'est-à-dire qu'ils ont frappé sur la base de l'observation d'un comportement suspect. Et c'est important parce que le problème, c'est que les frappes signatures, ça sort du cadre du droit de la guerre, du droit humanitaire international. Les États-Unis et la France n'ont jamais reconnu mener des frappes signatures, mais à l'évidence, il y en a eu énormément. Et la France, semble-t-il, en a mené quelques-unes à cette période-là. Ensuite, elle a arrêté, justement, quand il y a eu, un début d'alerte de la part de journalistes, mais aussi de chercheurs, sur est-ce que ce sont des frappes signatures.
Ces bavures, ça incite aussi les jeunes à prendre les armes, même de ceux qui n'étaient pas combattants au départ. Et c'est ça qui est aussi qui est assez contre-productif, si on peut dire, pour l'armée.
Oui, tout à fait. En fait, il y a tout un tas de raisons qui poussent les jeunes dans cette région à prendre les armes. Et une des raisons, c'est que parfois, eux ou des membres de leur famille ont été victimes. Victimes, ça peut être de l'armée française, mais souvent, le plus souvent, c'est de l'armée nationale. Donc l'armée du malienne au Mali, l'armée burkinabé au Burkina, l'armée nigérienne au Niger. Et en fait, c'est un des motifs qui pousse les gens, plusieurs études le démontrent, qui pousse les gens, et notamment les jeunes, à rejoindre les groupes armés, et parfois les groupes armés djihadistes, par esprit de vengeance, ou tout simplement pour se défendre et pour défendre leur communauté. Et effectivement, les bavures de l'armée française, mais aussi certaines de ses alliances avec des groupes armés, ont pu pousser certaines communautés à rejoindre l'ennemi, en l'occurrence les groupes djihadistes.
Bon, alors, il y a eu Serval, il y a eu Barkhane, il y a eu la force Takuba, qui n'a pas donné plus de résultats. Et on en arrive alors à la conclusion qu'aujourd'hui, c'est plus simplement les petits drapeaux qui sont pour accueillir Papa Hollande, c'est carrément Barkhane dégage. Alors, comment s'est arrivée cette révolte, si on peut dire, hein, du Malien de base?
Oh, c'est un processus assez long, comme je vous disais, assez rapidement finalement, après cette parenthèse enchantée, il a commencé à avoir des critiques vis-à-vis de la France. Il y a notamment un épisode qui a été très mal perçu au Mali, c'est lorsque l'armée française a repris le contrôle de la ville de Kidal. Kidal, c'est le fief des groupes indépendantistes Touareg. Elle a demandé à l'armée malienne de ne pas rentrer dans Kidal, alors qu'elle avait accepté que l'armée malienne rentre dans les autres villes du nord, notamment Gao et Tombouctou. Alors, ça pouvait s'expliquer de la part de l'armée française, elle craignait éventuellement des exactions, puisqu'il faut savoir quand même que pour Bamako, pour les autorités maliennes, l'ennemi numéro un, ce ne sont pas les djihadistes, ce sont les indépendantistes, Touareg. Donc, la France craignait, peut-être à juste titre, des exactions contre les civils dans cette ville. Par ailleurs, elle avait décidé de s'allier avec les groupes indépendantistes pour essayer de traquer les djihadistes, parce que les groupes indépendantistes sont constitués là-haut de Touareg qui connaissent parfaitement le terrain, donc pour traquer les djihadistes, mais aussi, c'est pas négligeable, pour essayer de retrouver les otages, parce qu'à l'époque, les groupes djihadistes ont des otages français. Donc ça peut se justifier à ce moment-là, sauf que, a posteriori, tout le monde admet que ça a peut-être probablement été une erreur, parce que cet épisode a été très mal perçu par les Maliens, qui ont dit « Attends, c'est quoi cette histoire ? La France vient nous aider à reconquérir le territoire, mais nous empêche de retrouver notre souveraineté sur une ville du Mali, il y a un problème. » Donc, ça, c'est un premier épisode. Ensuite, il y a eu des épisodes qui ont fait que la France a un peu perdu de son aura dans les zones où elle combattait. Elle a mené des opérations de police, par exemple, qui sont forcément mal perçues. Ça reste une armée étrangère, tout de même. Et une armée étrangère qui mène des opérations de police, c'est toujours mal perçu par la population. Elle a mené des fouilles dans les maisons qui ont été assez mal perçues, puisque ça se faisait sans aucun respect des coutumes locales. On ne rentre pas dans une case quand il n'y a pas d'hommes dans cette maison et qu'il y a des femmes, par exemple. Et ça, les militaires français le faisaient dans le cadre des opérations entité terroriste, entre guillemets. Tout ça a contribué quand même à amoindrir l'image de la France. Il y a un autre aspect qui est non négligeable, c'est que la France a compté sur des informateurs dans le Nord. Mais elle ne protégeait pas ces informateurs. Or, des informateurs ont été tués par les groupes djihadistes. Parce que, précisément, ils informaient l'armée française, ils étaient considérés comme des traîtres. Et l'armée française a été accusée de ne pas protéger ces personnes qui l'aidaient. Donc tout ça fait que petit à petit, au fil du temps, il y a quand même eu un sentiment qu'il y avait un souci avec cette présence militaire. Et ensuite, il y a, au-delà de des tactiques et des méthodes employées par l'armée, il y a le volet diplomatique, géopolitique, qui a considérablement détérioré l'image de la France dans cette zone, et notamment depuis que Emmanuel Macron est devenu président, parce que il a quand même des manières qui sont fort peu diplomatiques parfois, et il a contribué à vraiment, il a rappelé en fait à quel point la France pouvait être arrogante, notamment en Afrique. C'est une expression qu'on entend souvent en Afrique, arrogant comme un Français. Et il y a notamment un épisode qui a vraiment fortement déplu, alors là, dans l'ensemble des pays. C'est lorsque, fin 2019, Emmanuel Macron décide de convoquer littéralement les chefs d'État de la région en France, parce qu'il veut une mise au point. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, il commence déjà à y avoir des manifestations contre la présence française. Et il veut que les chefs d'État, en gros, mettent le holà sur ces manifestations et réitèrent leur soutien à l'armée française dans la zone. Et il les convoque comme de vulgaires préfets, en fait. Et ça, c'est très, très mal perçu par les populations locales, même les gens qui sont opposants dans les pays. Il y a quand même en Afrique un respect qui est dû au chef de l'État. Et on conçoit très mal qu'un étranger se permette, quelque part, de mettre à mal la souveraineté du pays. Et c'est le cas. Lorsqu'on convoque des chefs d'État, on leur intime l'ordre, quelque part, de venir en France pour dire on veut que l'armée française continue de se battre chez nous. Ce qu'ils ont fait, c'est ça aussi le problème. Et donc, ça aussi, ça, voilà, c'est un des épisodes qui ont fait que petit à petit, l'image de la France s'est détériorée jusqu'à arriver à 2019, 2020, 2021. On a vu de plus en plus de drapeaux français brûlés lors de manifestations, de plus en plus d'appels au départ de Barkhane, de plus en plus même de manifestations sur la route lorsque des convois de l'armée française se déplaçaient. Souvent, ils venaient de Côte d'Ivoire et ils montaient vers le Mali ou vers le Niger. Tout ça a fait que, voilà, l'image s'est détériorée jusqu'à aboutir à l'année 2022, où là, ça a été particulièrement flagrant et où l'armée française, non seulement a dû quitter le Mali à la demande des autorités maliennes, mais aussi a dû quitter en 2023 le Burkina Faso, là aussi à la demande des autorités burkinabées.
Morige bandi mi fembeteni, etuma beche lam sabi fe lam saba. Morige bandi mi fembeteni, tuma be borani dova kana. Kere la borani dova kana. Ni gaspiña gala chefe no va cono. Ni gaspiña le chefe no va cono.
Mi fendo va cono.
Ni gaspiña gala mi fendo va cono. Tembo ka kuma ya e fendo ga cono. Ni puteli ni tu me mama duda ngombo ka kuma tali jina te sala. Bafo ite fuila ni mi te fe mi ay jismada go. Eba koro mi bali de ni more, ni mi de fe mi aji smadogo. Na meke shakono foite feila, chigora ni sugula. Akalava suguni na foite feila, komo geli ni kono. Bavaria ni kono foite feila, damoso ni kono je foite feila, je foite feila. Ni mi de fe mi aji smadogo. Siloka kera tu mado mado. Ni mayo mengo kutu wakura be wala Wachigoro ni tumano mado be yenye Musumanu nte ube feme domi Kuto kume do ubolo Dikole meye ntie na nchori bido ubolo Mwene da laiva kone mango Jene gabulo ube feme domi Wishi sibe do uda
mamani magane nune hota
kapalo ne boti
Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire. Vous venez d'entendre une chanson du musicien malien Jos Saramani qui nous accompagne tout au long de cette émission. Et grâce au récit du journaliste Rémi Carayol, nous avons compris comment l'armée française et le mépris de Macron pour les chefs d'État africains ont réussi à faire monter le ressentiment des Maliens contre la France. Mais ce n'est pas tout.
Alors Macron avait une expression que vous ramenez dans votre livre qui était « tondre le gazon ». Ça veut dire quoi ça, « tondre le gazon » ?
Non, c'est pas Macron qui a cette expression, ah. Ce sont les militaires, c'est « tondre la pelouse ».
Tondre la pelouse.
Tondre la pelouse, ben, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire « tondre la pelouse », c'est tuer les chefs. Tuer les chefs, tuer le plus de chefs possible. On sait très bien que ça ne coupe pas complètement l'herbe, mais au moins ça fait gagner du temps. Voilà. C'est l'idée de tondre la pelouse, mais dans c'est d'ailleurs le titre de mes chapitres, tondre la pelouse et perdre les cœurs, parce que cette stratégie a contribué à ce que l'image de l'armée française soit détériorée.
Alors donc, cet échec que vous aviez prévu, finalement, est arrivé. Mais il y a un article dans Le Monde diplomatique là, de mars 2023 que j'ai lu qui s'appelle « La France partie pour rester au Sahel ». Alors finalement, ils ont été rejetés par les Maliens, rejetés par les Burkinabés, mais ils y sont toujours.
Oui, ils y sont toujours. Dans le silence le plus total, ou presque, en France en tout cas, sans aucun débat. Mais effectivement, il y a aujourd'hui 1500 soldats à Niamey, au Niger, et 1000 soldats à N'Djamena, au Tchad. Et il y a des petits détachements, très discrets, mais quand même des petits détachements au nord du Bénin et peut-être aussi au nord du Togo, parce qu'il faut savoir que les groupes djihadistes n'ont cessé de gagner le terrain et de descendre vers ce qu'on appelle les pays côtiers du golfe de Guinée. La Côte d'Ivoire, le Togo, le Ghana et le Bénin. Et donc, le gros problème de cette présence, c'est d'abord, un, pourquoi faire ? Se pose toujours cette question. Est-ce qu'on est toujours en guerre contre ces groupes djihadistes ? Visiblement oui, puisque les responsables politiques et militaires continuent d'employer le vocable de groupes terroristes, alors que la grande majorité de la communauté des chercheurs estime qu'il s'agit d'insurgés. C'est tout de même pas la même chose. Première question, donc pourquoi faire ? Deuxième question, comment ? Comment faire ? On a toujours des avions de chasse, des drones qui sont basés à Niamey. Donc ça veut dire qu'il y a la surveillance aérienne, mais aussi probablement des frappes. Donc ça veut dire que des opérations militaires sont toujours en cours. Et puis la troisième question, essentielle, et on en revient à ce qu'on disait au début, elle est d'ordre démocratique. Encore une fois, on mène une opération extérieure sans aucun débat en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 2500 soldats français qui sont basés au Niger et au Tchad, sans que l'on sache dans quel cadre ils interviennent, puisque officiellement, l'opération Barkhane a été arrêtée le 9 novembre 2022. Donc, depuis la fin de l'opération Barkhane, normalement, il n'y a plus d'opération extérieure dans la zone, du moins officiellement. Sauf qu'on a encore des soldats français qui interviennent. Ils peuvent mener des combats avec les armées en question, mais aussi ils apportent tout un tas d'aides, formation, coopération, construction de bases aux armées nigériennes et tchadiennes. Ça pose quand même un problème. Dans les combats, encore une fois, ça veut dire que la France est encore en guerre. Donc il serait bon que les citoyens français soient au courant. Mais aussi ça pose un problème parce qu'on coopère avec des armées qui peuvent être très problématiques. Je pense notamment à l'armée, mais aussi au régime tchadien. On sait que le Tchad est dirigé par une famille depuis plus de 30 ans maintenant, puisque après Idriss Déby Itno, son fils lui a succédé à l'issue d'un coup d'État constitutionnel.
Macron est allé le soutenir
immédiatement. On sait que ce régime est très dur et qu'en octobre 2022, il a tiré sur des manifestants et qu'il y a eu au moins 100 morts. On sait que le président, donc le fils Déby, qui a pris le pouvoir à l'issue d'un coup d'État, semble décider à conserver ce pouvoir. Et malgré tout, l'armée française coopère avec l'armée tchadienne. Récemment, ils ont construit un camp, une base dans le sud du Tchad. Régulièrement, ils mènent des opérations de formation avec l'armée tchadienne. Alors que, et là aussi, c'est quand même quelque chose qui se pose, en plus, une question qui se pose depuis le début de l'opération Barkhane, alors que les djihadistes, les groupes djihadistes, ne sont pas actifs au Tchad. Le Tchad a des groupes djihadistes qui sont actifs, mais ce ne sont pas ceux que l'armée française combat au Mali et au Niger. Ce sont ceux qui sont actifs au Nigeria, dans la région du lac Tchad, que officiellement la France ne combat pas. Donc il y a aussi cette question qui se pose, mais qui se pose depuis des années finalement. Que vient faire le Tchad là? Il se trouve que le Tchad est considéré par les militaires français comme une place forte, indispensable, et que pour rien au monde, il ne lâcherait cette position stratégique.
Alors bien sûr, il faut lire votre livre pour avoir plus de détails sur ce que vous venez de nous dire. Mais maintenant, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'il y a eu des réactions à votre livre? Parce qu'il y a plein d'informations importantes que les gens ne connaissaient pas, justement.
Assez peu, finalement. L'institution militaire n'a pas réagi. Elle a un peu réagi lors de la sortie du livre sur un aspect essentiel. Elle ne réfute, bon, elle ne, elle, pour ce qui est des bavures, des méthodes, elle l'avait réfuté lorsque des articles de presse étaient sortis, donc elle n'est pas revenue là-dessus. Par contre, l'institution militaire ne supporte pas l'idée qu'on puisse dire que l'opération Barkhane est non seulement un échec politique, mais aussi un échec militaire. Les militaires disent quoi? Ils disent oui, c'est un échec politique, mais c'est une réussite militaire. Exactement comme lors de la guerre d'Algérie, finalement. On retrouve le même discours. Ils sont persuadés, eux, d'avoir réussi leur guerre, en fait. Or, tout démontre que non, ils ne l'ont pas réussi, puisque leurs objectifs, qui étaient très flous, c'est vrai. Et c'est vrai que c'était une guerre ingagnable. Objectifs flous, et on ne combat pas des groupes insurgés avec des méthodes antiterroristes. Il n'empêche qu'eux, ils ont échoué, puisque les groupes djihadistes n'ont cessé de gagner du terrain. Et ça, ils ne le supportent pas. Donc, ils ont réagi là-dessus, en niant le fait que c'était un échec. Et puis, ils ont réagi sur d'autres petits points que j'abordais. Notamment, je parle d'une prison que j'appelle clandestine, qui était à Gao, dans le camp militaire français de Gao, où étaient gardés des prisonniers pendant quelque temps, hors de tout contrôle extérieur. Et ça, ils ont nié le terme de clandestin. Ils ont voulu quelque part noyer l'information dans l'eau. Mais cela dit, il faut dire qu'ils ne répondent jamais directement. C'est pas l'institution en tant que telle. C'est via des officiers, soit des officiers à la retraite, soit des officiers encore en actif, qui répondent à des interviews. Mais ils ont adopté la stratégie de ne pas répondre non plus officiellement pour ne pas donner plus de lumière que ça au livre. Quant aux responsables politiques, ils n'ont pas répondu directement, mais il y a eu quelques déclarations, notamment du président qui constituait là aussi à nier le fait que ça soit un échec, mais je ne suis pas le seul à le dire, donc c'est pas forcément des réponses seulement à mon livre.
Alors que les militaires et le président aient cette réaction, nous, ça nous étonne pas, l'Union pacifiste. Mais les politiques, justement, est-ce qu'il y a des politiques qui se sont dit « nous avons appris des choses, nous avons envie maintenant de nous occuper de ce qui se passe là-bas, poser des questions au Parlement ou ailleurs », est-ce que, justement, ça suscite quand même quelques réactions?
Alors, je ne sais pas si c'est lié à mon livre, mais on sent du côté de la gauche de l'Assemblée nationale, aujourd'hui, au sein du groupe de la NUPES, qu'il y a une prise de conscience que le Parlement doit exercer un contrôle sur les guerres de la France, et notamment sur cette opération-là. On voit que des députés essayent de poser des questions qui fâchent, ce qu'ils ne faisaient pas forcément avant, essayent de demander quel est le statut, par exemple, aujourd'hui des militaires, parlent d'échec de l'opération Barkhane. Le problème, c'est que le pouvoir des parlementaires en la matière est très, très limité, puisqu'on est dans une république où l'exécutif, et notamment le président de la République, a quand même tous les pouvoirs, ou presque, notamment en matière d'intervention militaire. Et donc, ils n'ont pas vraiment les moyens de jouer leur rôle, en fait, de contrôle de l'exécutif. Un exemple, lorsqu'il y a eu la frappe, le bombardement du village de Bounti, à l'époque, député de la France Insoumise, Bastien Lachaud, avait demandé, membre de la commission de la Défense, avait demandé à avoir accès aux éléments de l'armée française qui lui permettaient de dire que si, c'était bien des djihadistes. Il a demandé ça à la présidente de la commission de la Défense, qui était évidemment une députée élue de la majorité, et qui a refusé. Donc on voit bien toute la difficulté que peuvent avoir les députés de l'opposition à essayer d'exercer un contrôle sur l'exercice militaire de l'exécutif. Mais ce que j'ai constaté aussi, c'est que autant aujourd'hui on voit quand même qu'il y a une volonté de s'emparer de ce sujet, mais ces dernières années, il n'y avait pas cette volonté. Même s'ils avaient des moyens limités, moi j'ai trouvé les parlementaires vraiment très discrets, très mesurés sur ces questions-là, et il suffit de lire les débats parlementaires. Le seul débat parlementaire qui a eu lieu longtemps après le déclenchement de l'opération Barkhane, qui a eu lieu en 2021, d'abord au Sénat et ensuite à l'Assemblée nationale, on voit bien dans les réactions des différents groupes parlementaires que ça reste très mesuré. Alors évidemment, les groupes de la droite, de l'extrême droite, du centre s'inscrivent dans la logique de la guerre, mais même les groupes de gauche ont du mal à s'en départir.
D'ailleurs, on a vu dernièrement, avec l'augmentation du budget de l'armée qui est énorme, qui a été votée il y a un jour ou deux, je ne sais plus exactement, il n'y a pas eu d'opposition, ni d'un côté ni de l'autre.
Oui, c'est... Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste de la politique française, mais pour en discuter un peu avec les différents élus que je peux être amené à rencontrer, il y a très clairement une réticence de la part, y compris des élus de gauche, à remettre en cause la toute-puissance, il faut dire ce qui est, du lobby militaire. Le lobby militaire, il est très fort, pas seulement sur le plan économique, également sur le plan politique. D'ailleurs, régulièrement, il y a des militaires de réserve ou des agents du ministère de la Défense, des agents civils, qui sont élus députés et qui, en général, squattent les places stratégiques en la matière et qui imposent quelque part les vues de l'armée française au Parlement. Il faut lire les rapports parlementaires de la Commission de la Défense pour se rendre compte que ce sont les éléments de langage qui sont toujours développés dans ces rapports, que les critiques de l'armée française sont entendues mais ils sont jamais ils n'ont aucun impact, en fait. Et je prendrai pour exemple un rapport qui avait été un rapport sénatorial qui avait été publié en 2017, si je ne me trompe pas, qui était un rapport très clairement de commande de la part du lobby militaire, parce qu'à l'époque, l'armée française avait des drones, mais ils n'étaient pas armés. Et il fallait les armer. Pour cette guerre au Sahel, on avait besoin de les armer, on estimait que c'était indispensable. Et donc, deux sénateurs ont été... On rédigeait un rapport qui appelait à l'armement des drones, et ça a été quelque part l'excuse pour la ministre de la Défense, qui était à l'époque Florence Parly, pour dire, voyez, les parlementaires estiment qu'il est nécessaire d'armer les drones, on va les armer. Donc en fait, il y a quand même un lobby militaire qui est très puissant, et il faut dire ce qui est, une partie de la gauche a beaucoup de mal s'y confronter en fait. Pourquoi ? Bon, peut-être pour des raisons un peu électorales, peut-être aussi pour des raisons un peu idéologiques. Hein. Il y a quand même le sentiment de la puissance de la France, il est aussi développé par la gauche, curieusement, l'influence. Tout le monde, quand on entend les élus français, y compris de gauche, on a l'impression que c'est normal que la France soit influente. On se pose jamais la question de pourquoi, finalement, pourquoi être influent ? À quoi ça sert ? Est-ce que ça nous rend nous plus heureux ? Et puis est-ce que ça rend les autres peuples plus heureux aussi ? On ne se pose jamais ce genre de questions.
Alors vous dites dans votre livre effectivement que grâce à la guerre au Mali, l'armée française a pu maintenir son budget. Et alors maintenant avec la guerre en Ukraine, qui n'est pas directement, en principe on n'est pas en guerre pour l'instant, que je le sache, contre la Russie, ça permet aussi d'augmenter tout le budget, le développement des marchands d'armes, etc. Donc c'est encore une bonne excuse, peut-être.
Ah ben, très clairement, les militaires étaient ravis de cette guerre au Sahel parce qu'elle leur a permis de stopper l'hémorragie. C'est-à-dire, depuis plusieurs années, le budget du ministère de la Défense, comme les budgets des autres ministères, hein, était rogné chaque année. Et chaque année, d'ailleurs, il suffit de regarder un peu la presse. À chaque année, avant le débat sur le budget, on voit des officiers à la retraite ou des sympathisants, entre guillemets, de l'armée dire attention, l'armée doit conserver son budget, sinon elle va perdre toutes ses capacités et tout ça. Chaque année. Et effectivement, dans les années 2000, le budget de l'armée est rogné chaque fois. Et dès que l'opération Serval est lancée, en 2013, l'hémorragie est stoppée. Et non seulement le budget est quelque part sanctuarisé, mais il va être même augmenté au fil des années. Sans oublier que à ce budget s'ajoute le budget qui est annexe des opérations extérieures, et qui lui aussi est considérablement augmenté. Alors, avec la guerre en Ukraine, évidemment, là, on a atteint des sommets. Mais c'est évident que pour l'armée, elle a besoin de guerre pour justifier son existence, pour justifier ses budgets. Et à ce propos, il y a un article du Monde publié il y a quelques jours, était intéressant. Il relevait les déclarations d'un responsable du lobby militaire sur le plan économique, un responsable d'une entreprise qui produit du matériel militaire, qui expliquait que la présence militaire française en Afrique, elle était importante, notamment parce que ça permet de vendre du matériel militaire. Alors pas forcément des armes, ça peut être du matériel roulant, mais voilà. Et tout est lié en fait, c'est évident. Et d'ailleurs, le lobby militaire a quand même pesé de tout son poids lors de la transformation de l'opération Serval en opération Barkhane en 2014, parce qu'il avait tout de suite compris quel intérêt il y avait à poursuivre cette guerre.
Alors Rémi Carayol, dans Le Monde diplomatique, dans Orient 21, dans Mediapart, bon, on comprend qu'il y a des gens qui sont intéressés par ce sujet. Mais est-ce que d'autres journalistes ont repris, par exemple, des éléments du livre pour en faire, en parler ?
Oui, alors, j'ai pas à me plaindre sur l'accueil médiatique qui a été réservé à mon livre, puisque j'ai eu plutôt... j'ai été interrogé par beaucoup de médias quand même, un peu de télé, un peu de journaux. Donc là-dessus, voilà, il n'y a pas eu de, censure du milieu, bien au contraire. Il faut quand même dire une chose, c'est que si j'ai été un des premiers journalistes à être critique vis-à-vis de l'opération Barkhane, sur la fin de l'opération Barkhane, il y avait une quasi-unanimité hein, dans le monde des médias, des chercheurs évidemment, mais aussi des médias, sur le fait que c'était une impasse. Et d'ailleurs, la bavure de Bounty de janvier 2021 a été très généralement traitée par la plupart des médias, qui ont fait un bon boulot pour le coup. Alors pendant longtemps, moi je me suis senti un peu seul à traquer les bavures de l'armée française, effectivement un peu seul. Quand je sortais des articles dans Mediapart, c'était pas repris par exemple. Mais sur la fin... il y a eu quand même cette prise de conscience que cette opération militaire était problématique. Donc, le livre a quand même reçu un accueil. Par contre, est-ce que sur le fond, ça contribue à faire en sorte que les journalistes aient un regard plus critique sur les opérations militaires de la France? Ça, je suis beaucoup plus dubitatif. D'autant que le lobby militaire n'est pas seulement actif au Parlement, il est aussi actif dans la presse, et que notamment les journalistes défense, il faut dire ce qui est, la plupart des journalistes défense sont cul et chemise avec l'institution militaire, ils n'ont pas de regard critique sur la chose militaire, et parfois même c'est des fanamilites, il faut dire ce qui est, certains sont même des militaires de réserve en fait. Et donc, moi, et par ailleurs, le lobby militaire est un annonceur. Il prend des publicités dans la presse et ça non plus c'est pas négligeable, donc on peut pas s'attendre à un changement radical. Par contre, il y a tout un tas de médias indépendants qui eux quand même aujourd'hui observent d'un regard, d'un œil critique ce qui peut se passer notamment en Afrique dans le cadre des opérations militaires de la France.
Alors, ce livre est terminé, donc maintenant qu'est-ce que vous avez, vous continuez sur le Sahel, vous allez au Niger, au Tchad, Bénin, vous m'avez parlé du Togo. Ça s'arrête pas là, quoi. Je veux dire, ça fait 10 ans que vous travaillez sur l'Afrique, et puis je pense pas que vous ayez l'intention de vous arrêter après ce livre.
J'ai l'intention de changer un peu de zone, mais pour l'instant je me tâte, parce qu'en fait le Sahel est une zone qui est très attachante. Moi j'ai des amis et j'ai beaucoup de plaisir à aller dans ces pays, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Tchad notamment. Mais c'est aussi une zone qui est assez épuisante et je ressens l'envie d'aller un peu voir ailleurs sur le continent. Il y a des choses qui se passent ailleurs et qui méritent tout notre intérêt aussi.
Bon, je ne vais pas vous faire dévoiler vos projets complètement, mais je sais qu'on aurait pu parler aussi de Mayotte, mais je ne veux pas vous épuiser aujourd'hui, parce que vous avez beaucoup de choses à dire sur Mayotte, et je crois qu'à ce moment-là, parce qu'il se passe aussi beaucoup de choses au Mayotte actuellement, et qu'à ce moment-là, on pourrait refaire carrément une émission sur Mayotte, parce que les gens ne connaissent pas non plus ce qui se passe à Mayotte, et ils n'entendent par la télévision, ou la radio, ou la presse même, que des choses, on fait régner l'ordre, quoi. Mais quel ordre ? Effectivement, Rémi Carayol a vécu de nombreuses années dans l'archipel des Comores, où il a d'ailleurs fondé 2 journaux, Kazakhski et Upanga, avant d'ailleurs de rejoindre la rédaction de Jeune Afrique. Il a donc, bien sûr, beaucoup de choses à nous raconter sur Mayotte, et nous l'inviterons bientôt pour nous reparler de cette île. Il me reste donc à remercier Rémi Carayol, auteur du livre « Le mirage du Sahel, la France en guerre en Afrique, Serval, Barkhane et après ». Je vous recommande d'ailleurs vivement la lecture de ce livre, et je vais remercier aussi le musicien malien Djoz Saramani, qui a permis de nous plonger dans le Mali actuel. Nous allons donc conclure avec une autre chanson de Djoz Saramani et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.
Sebeni ngoro na manindugu ubi demega moko yala nuiga fali soro betana e
Djoz Saramani.
Kabitu on the
mix. Anga nyongo famu ya djugu mate.
Kaka shalai.
Nesli mu fote ko djugu
ye. Nima batila. Nima batila.
Amerika.
Assalamu alaikum jugumante ayo bismila ameriki Assalamu alaikum jugumante tenga ga bismila ameriki anga ni vola pichete anga ni vola baby nyana mini ya baby biangi nyana mini cheni mi bia mote srani nye sigida club fagela anga demi senu be doroguta kumaba numbe sezimi ya musuma numbe chaga yake kote kwa la fenta la dokoro matige obi bani Jengibi yere ye Colombia, segati manume chata ke ande boisson bien amelikeri mi. Kote wala fenta la, ankoro fodoron chami banini. Ibanini, dokoro matige chow ibanini. Awa miliye kelego kiyamata, miliye kelego maltelda. Ni dona kone ti bocho wodon, belegu manu yu kanto manko sumana gosi ye kojuguye. No bofari fleni fenjugute, koniba miga falite ban, wabe doni mfarega mogo yaka. Ya bofari fleni fenjuguba, ni a ye fen sumaleno, na ni a mi fen funamamba. Sola yi tije yi kanto manko, manu ma fenye koka ye. Walenza go with the musokoro, metiro la ube walita bishi. Fama de ume classic ono, fanta de ume tienina. Filimu debe bakar check ono, mobela ta onye na ninye. Nga kalabambu ye mburana ye, kalabanga uye konyu mange bari. Kono jafile nyunko juguba, nyoji gerebe kalabambu unibe kalabaita kono jaye. Erezo ferebe jigoroni, jigoroni manu te pila gela. Joma ya flote jigoroni, nifili la ubi oriante. Nifili la ubi oriante, meni pete pete cho ubi banini. Fali mime la fiabu, anyo wana foite pama kokono. Uye ne kanote kojuguye, ube sanga fali ala. Keke, amuru mwanyali. Chemili ebe, ngomili ebe, mesegati kelego Ameriki, Ameriki. Ameriki, bisegati kelego Jamaiki. Jengibi yere ye Colombia. Segati manume chata ke ame boisson bi ame ligeri mi. Kote wala fe fara, amoro nibe uchami ba jam fate sila. Mi bache nibe woro man jam fate sila. Nchi wara mi fle ni jugoroni, ote sira nyendo. Gaza ulu ke alma fle, wate neye te dagano. Line you call me Jigoroni, ute sirali mautuni. Lefu ni mingani chiende, sega titi yido sega kala. Fata! Kuju ufile ni Jigoroni, niyama sono ka warayama. Waraya tege ni chogo tibolo, alizami sona ko konfirime.
Kana jomo la sega tikana.
Beti ni ndo file itali, erbe kita saramani. Ni aya mumi ni nama, amini soe kabakuye. Sanile kona itekele ae.
Une terre pour un peu d'or pour quelques pierres, faire couler le sang en rivière, faire couler le sang en rivière. Messieurs Vespucci, Amerigo, Waldi, Muller, Colomb, Anco, ce monde n'était pas si nouveau, ce monde n'était pas si nouveau, et n'en déplaise à votre ego. Félon, conquérant de tout poil, Boer Colon, conquérant de tout poil, Boer Colon. Mais quand je ne bois pas, quand je ne bois pas,
Mais quand je ne bois pas, quand je ne bois pas, je garde le feu au fond de moi. Je garde le feu au fond de moi. No sirve solamente se lamenter. No sirve beber pour oublier. El derecho de vivir et de s'aimer. El derecho de vivir et de s'aimer. Ici et là, partout encore. Ici et là, partout encore. Puisqu'un bon indien est un indien mort. Puisque les gueux ont toujours tort. Ici et là, partout encore. Je chante à réveiller les morts. Je chante à réveiller les morts.
Sur la guitare, comme de l'huile sur le feu, comme des pavots dans la mare, et les déroulés du grand jeu. Des mots jetés sur la guitare, comme des bouteilles à la mer, dans la nuit des appels de phare, des rêves, des cris, des colères. Sur la guitare, mes hirondelles à ciel ouvert, des trilles dans les idées noires et des frisolis d'idées claires. Des mots jetés sur la guitare pour conjurer les vents mauvais, comme par un effet de l'art qu'un peu se referment les plaies. Sur la guitare, comme à tout prix rester vivant, tant d'années passent, il se fait tard, et tant nous décharne le temps. Des mots jetés sur la guitare, pour aller au bout de son chant, en traversant tous les miroirs, jusqu'au dernier soleil couchant.
Il avait 25 ans à l'époque, une femme qu'il aimait, t'as fait comme ouvrier, mais ça lui suffisait. Père depuis peu, à vrai dire, mars 86, une petite île au nad de 3 kg 6. Igor avait la santé, Dieu lui avait donné l'amour, donc Igor était comblé. Ce jour-là était un samedi d'avril, belle journée, à quelques kilomètres de Tchernobyl. Igor aimait marcher dans le parc, profiter de sa famille, car en semaine il rentrait tard. Mais sur le chemin du parc, l'atmosphère était étrange et la rumeur naissante. La nouvelle était inquiétante et la peur devenait émergente. Le réacteur numéro 4 de la centrale aurait pris feu. Igor dit à sa femme qu'il valait mieux rentrer chez eux. À la maison, vite, il la verra Ilona. Igor alluma la radio et le téléphone sonna. Sonna, 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 sonna. Quand la vie n'est plus une excuse, ils envoyaient des hommes à la mort, car la vie n'était plus une excuse. Mais comment accorder le pardon quand la vie n'est plus une excuse? Ils ont envoyé des hommes à la mort, car la vie n'était plus une excuse. Mais comment accorder le pardon?
Igor décrocha le téléphone, c'était son patron. Une fallait du monde au réacteur, pas le droit de dire non. De plus, en aidant à contenir l'incendie, l'État serait reconnaissant pour lui et sa famille. Sur les lieux, les recommandations furent claires. Pas plus de 90 secondes au sein du réacteur. Igor travailla sans relâche durant 5 heures, puis fut interrompu par de violents hauts de cœur. Les radiations, ennemis invisibles, et même en 90 secondes, le pire était prévisible. Aux hauts de cœur s'ajoutèrent douleur et mal de tête. Igor
Bonsoir, c'est Jazz Vibre, Radio Libertaire 89.4. Yves au micro, en direct des studios. Laurent, mon camarade Laurent à la technique. The best of the best. Numéro du studio 01 43 71 89 40. Vous avez évidemment l'obligation de regarder sur le site de radiolibertaire.net l'agenda, les podcasts qui sont valables 12 mois et qui sont mis 7 minutes après la fin de l'émission. Vous pouvez m'envoyer un mail à dk51@sfr.fr. Vous avez ma page Facebook Yves Jazzlib, sur laquelle je mets toutes les informations liées à l'émission, sur lesquelles je partage sur beaucoup de pages Facebook liées au jazz et uniquement liées au jazz. Et vous avez aussi ma page Instagram Jazzlib, l'émission. Voilà, donc ce soir, je suis très heureux d'être avec vous. Vous êtes sur la meilleure émission de jazz au monde. Soyons modestes, hein, voilà. Non, je déconne. Bon, bref, et donc, nous avons un programme chargé avec beaucoup, beaucoup de choses absolument magnifiques, des rééditions, des nouveautés. Alors, des nouveautés, vous allez en avoir beaucoup cet été, parce que j'ai vraiment beaucoup de choses, et puis il y a tellement de rééditions absolument incroyables, mais vraiment terrible. Donc là, nous allons commencer par compilation d'un musicien français qui s'appelle Raymond Folle, qui était pianiste. Il est né le 28 avril 28 à Paris. Il est mort le 1er mai 1979. Donc, pianiste français, le frère d'Hubert Folle, évidemment, le saxophoniste clarinettiste. Donc ce sont des musiciens qui ont été un peu éclipsés par d'autres. Ce sont des musiciens qui ont joué avec Sidney Bechet, avec Stéphane Grappelli, avec Kenny Clarke, Duke Ellington, notamment. Et donc, Raymond Folle a été injustement méconnu, évidemment une carrière malgré tout relativement courte. Il a joué aussi avec Django Reinhardt, hein, puisqu'on était dans l'anniversaire de Django Reinhardt. Donc il a joué avec beaucoup de très très grands musiciens français, comme Jean-Louis Chotan, Gérard Badini, avec également, comment s'appelle-t-il, les contrebassistes, Michel Gaudry, le batteur Sam Woodyard, etc., etc. Donc, une très faible discographie, mais en même temps, c'est intéressant de retrouver. Ah, donc, voilà, le Fresh Sound a retrouvé et remis dans la mesure du possible beaucoup, beaucoup de choses de ce musicien. D'ailleurs, une très belle dédicace dans dans ce double album de Martial Solal qui dit il faisait partie des musiciens les plus qui pouvaient vraiment jouer à l'époque dans les années 50. Et donc le titre de ce double album s'appelle Rediscovering. Et alors c'est vraiment intéressant parce que ça commence en 1957 et ça se termine en 62 je crois. Et ce qui est formidable, c'est qu'on voit l'évolution du jeu pianistique de ce musicien qui est au départ très influencé par Ellington,